Le pardon. Un sujet délicat, n'est-ce pas? Certains actes paraissent impardonnables, surtout ceux qui nous ont profondément blessés ou touchés, ceux qui nous ont fait du mal, surtout quand cela a été fait par quelqu'un que nous aimons. Pourtant, Dieu est clair, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Autrement dit, si je ne pardonne pas mon prochain, Dieu ne peut pas me pardonner. Matthieu 6, verset 14. Alors, comment faire? Comment faire la part des choses sans nier le mal qui a été fait, ni les souffrances que cela nous inflige, à nous ou à ceux qui nous sont proches? Comment faire pour se reconstruire? N'y a-t-il pas des choses si graves qu'elles ne peuvent obtenir le pardon? Et je précise, le vrai pardon. Le pardon sans rancune, sans amertume, sans revenir sur les dossiers, les vieux dossiers. Il paraît que le pardon est une des clés de la guérison intérieure, de la paix intérieure. Mais alors, d'accord, mais comment? Lorsqu'on a eu mal, lorsqu'on a été abusé, désabusé, dérespecté dans notre chair, dans notre corps, lorsqu'on nous a fait mal et que la blessure nous rappelle à notre bonne mémoire, comment faire? La question de ce soir est, doit-on? Et peut-on tout pardonner? Et ce débat sera fait en compagnie de Cathy, Mylène, William ainsi que moi-même, mais surtout, vous aussi amis auditeurs, nous attendons vos réponses au 07 68 08 46 44 afin de partager votre opinion, de partager votre vécu, peut-être une courte expérience. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi appeler ce numéro et partager avec nous. Je laisse la place à Cathy pour animer ce débat.
J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, comme indiqué, le thème est le pardon. Doit-on tout pardonner, Mylène?
Alors moi, ce sujet... Doit-on tout pardonner?
Alors je précise, j'ai mis même une petite précision, c'est doit-on et peut-on tout pardonner? Donc ça sera encore plus compliqué pour toi, Mylène.
Alors déjà, doit-on? Et là, je vais prendre une citation d'un film que j'avais vu. Parfois, ne pas avoir lu la Bible, ça peut être bien. Parce que si je ne l'avais pas lu, j'aurais répondu non tranquille. Maintenant que je l'ai lu, ma réponse est oui, on doit tout pardonner. Maintenant, le peut-on? C'est autre chose.
Alors, pour que ce débat soit vraiment dirigé, et c'est ce que nous voulons, par l'Esprit de Dieu... Tant que vous intervenez, tant que vous le pouvez, essayez d'étayer ce que vous dites d'un verset ou voilà, de sorte que ce soit guidé par l'Esprit, par la Bible, que nous puissions intervenir.
Alors, David, juste, je sais que lors du précédent débat, lors du prochain échange, nous avons pu également, juste avant de commencer, donner une définition du pardon. Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous a une définition du pardon, qu'on puisse mettre tous d'accord, même avec les auditeurs, sur cette définition.
Alors, le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, de ne pas tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder un ressentiment négatif. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça?
Oui, oui.
Parce que souvent, moi, j'entends, et moi-même, je l'ai dit, je pardonne, mais je n'oublie pas.
Alors moi, je suis parfaitement d'accord avec cette définition, et je suis très contente qu'on précise la définition, parce que pour moi, justement, pardonner, ça veut, c'est pas effacer la mémoire, en fait. C'est ne plus tenir rigueur, comme on indique. Et je pense que c'est ce que nous dit... De ma compréhension de la Bible, il n'est pas indiqué que Dieu efface notre mémoire après que l'on ait pardonné. Voilà. J'en veux pour preuve, Jésus a pardonné à ses bourreaux, pourtant il a toujours ses marques aux mains.
Voilà. Ouais, c'est une très bonne illustration.
Alors, une autre définition qui a été donnée par Sarah de Stein. Pardonner, c'est considérer un manquement, une faute, une offense, sans en tenir rigueur à l'autre et en ne gardant aucun ressentiment. Voilà.
Alors, est-ce que c'est quelque chose que l'on fait dans la vie courante? C'est, moi, je sais que je pardonne, mais c'est vrai qu'après, les liens sont différents. Mon approche avec la personne ma relation va peut-être être différente. Du coup, est-ce que c'est pardonner ou est-ce que c'est pardonner, mais en même temps se dire, bon, étant donné que je sais que par exemple la personne est comme ça, bon, ben voilà, je prends pas mes précautions, mais bon, je vais pas m'engager autant que je l'avais fait la dernière fois.
Alors, c'est très intéressant, nous avons eu une réflexion qui nous vient de notre ami David de Courbevoie, c'est ça ?
De Sannois,
c'est ça. David de Sannois qui nous dit, alors ça va dans le sens de ce que nous disait Cathy, alors voilà sa petite réflexion, et je pense que ce sera intéressant pour rebondir, alors le temps que j'arrive au début, voilà, alors, il nous dit, il nous est dit de pardonner 7 fois, 77 fois 7 fois, mais il n'est pas fait mention de mémoire. Doit-on pardonner la même personne autant de fois et à chaque fois ? Alors, il nous dit, en se mettant à l'écart de tout ce qui peut nous faire du mal, ne doit-on pas s'enlever son propre œil s'il est une occasion de chute ? Donc, à plus forte raison, ne devrions-nous pas pardonner une fois, mais, il insiste sur le « mais », ne pas se remettre dans la situation à l'avenir. Donc, comme disait Cathy, c'est-à-dire pardonner, mais maintenant qu'on connaît la personne, prendre ses précautions. Alors, j'ai trouvé cette remarque intéressante et j'aimerais, comment on dit ça déjà, un coup de pied dans la fourmilière, on va dire ça comme ça. En disant que moi je ne suis pas d'accord. Voilà. alors c'est bien sûr c'est simplement pour rebondir sur le débat, mais est-ce que dans la dimension où nous sommes chrétiens, lorsque l'on pardonne, justement le vrai pardon, est-ce que ce n'est pas ce n'est pas rentré dans ces considérations là, c'est-à-dire ok on connaît la personne, mais comme on l'a pardonné, ça ne nous empêche pas de continuer à lui refaire confiance, etc. Alors, j'attends vos réflexions par rapport à ça.
Alors, David, pour embrayer avec, pour continuer justement sur cette question, la question que tu nous poses, en fait, je pense que on peut se poser également une autre question. Lorsque nous pardonnons, lorsque je pardonne à quelqu'un qui me refait du mal, qui est-ce qui pardonne ? Dans le sens où, est-ce qu'il faudrait pas mieux insister sur le fait que c'est Jésus qui m'aide à pardonner ? C'est Dieu qui m'aide à pardonner ? Que moi tout seul, si je pardonne, mais je vais pardonner comme humainement. Je vais peut-être garder certaines rancœurs, une certaine... comme disait Cathy, je pardonne, mais il reste quand même une tâche. Mais...
Alors, je vois ce que tu veux dire,
mais dans le sens où pardonner comme Dieu pardonne.
D'accord. Alors,
c'est-à-dire même si Mylène a dit, il en garde des traces. Lorsque je pardonne, si un jour je te pardonne, ben on n'en parle plus, c'est fini, c'est terminé.
Et lorsque je vois les traces quand je vois la cicatrice de la blessure.
Ben justement, comme a dit David, ça permet de prévenir, d'avoir retombé dans une situation où j'aurais à te blesser ou j'aurais à devoir me justifier pour
alors,
le pardon.
Excuse-moi de te couper. Argine,
du coup, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut systématiquement pardonner à chaque fois qu'une personne faute. Moi, je prends l'exemple, par exemple, des violeurs récidivistes. Voilà, moi, je suis une mère. Un violeur, fait ses affaires avec ma fille. Je trouve le courage de lui pardonner. 2 ans plus tard, j'entends à la télé que cet homme-là a recommencé. 3 ans plus tard, encore une fois, il va en prison, il ressort, il recommence. Dans ce cas-là, le pardon 77 fois, 7 fois, est-ce que c'est possible ?
C'est la question que je posais.
Voilà,
c'est pour ça que j'ai dit je donne un coup de pied dans la fourmilière, d'accord. Attention. Hein. J'ai bien dit que c'est pour simplement faire avancer le débat.
Moi, je pense que tant qu'on n'est pas dans cette situation... C'est difficile de pouvoir vraiment y répondre.
Est-ce qu'il y a des situations pour le pardon ? ce que la Bible dit. Enfin, je veux dire, la Bible ne donne pas de situation, en fait, par rapport au pardon. Voilà pourquoi je demande, est-ce qu'il faut pardonner tout le temps ? Après, on a donné l'exemple de Jésus, mais attention, Jésus ne pardonne pas comme ça. Il ne suffit pas juste de demander pardon à Jésus, il faut qu'il y ait un processus derrière. C'est pas juste... Moi, je vois souvent, je l'admets dans mes prières, je dis « Bon, Seigneur, pardonne-moi mes offenses d'aujourd'hui sans même les citer ». Bon, bien souvent, c'est une petite formule de politesse que j'envoie dans ma prière, mais il n'y a pas vraiment de processus. S'il y en avait vraiment un, j'aurais cité ce que j'aurais fait dans la journée qui ne correspondait pas. Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des auditeurs qui voudraient un petit peu nous donner leur avis sur la question ? Mylène voulait intervenir aussi ?
Moi, je vais intervenir pour deux points. Le point que tu viens de soulever, la Bible nous dit « Lorsque je me suis tue, mes os se consumaient ». Et je pense que la première étape, effectivement, c'est reconnaître et dire ce qu'on a fait. Et c'est déjà une première étape, la reconnaissance, j'ai fait quelque chose de mal, nommer cette chose. Pas dire « Tu sais, Seigneur, ce que j'ai fait de mal ». Non. Dire vraiment, nommer l'action. Déjà pour nous-mêmes, c'est l'acceptation. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Et par rapport à l'exemple que tu donnes, sur le cas de ce violeur multirécidiviste, la personne qui va choisir de pardonner à ce violeur, ce qu'il fait à son enfant, bah, franchement, il a tout notre respect. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le pardon, c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Mmh, mmh. C'est un processus. Et ça peut prendre des années. Parce que la blessure, elle est longue. Et donc, elle se guérit aussi lentement. Et c'est pas parce que l'on dit à la personne, je t'ai pardonné, que ça veut dire on repart comme si de rien n'était. Non. Mmh. Il y a une reconstruction à faire. Et c'est là où la Bible nous dit que c'est un don de Dieu et c'est son amour seulement. Parce que c'est l'amour de Dieu dans notre cœur qui va nous faire changer le regard que l'on va porter sur la personne. Et même si effectivement la blessure, elle est présente et qu'elle cicatrise, on garde des traces. Mais le regard que l'on va porter à cette souffrance qu'on a eue ne sera pas le même. Et ce sera différent. Et c'est dans ce sens-là que le pardon devient effectif. C'est pas juste dire « Ah non, mais je t'ai pardonné, on tourne la page. » Et au fond de moi, c'est « Je t'ai pardonné, mais tu crois que je t'ai oublié ?» Non, pas du tout. C'est Dieu qui permet ça. C'est pas quelque chose qu'on fait de nous-mêmes.
Mais justement, à propos de ça, est-ce que, est-ce qu'on est toujours obligé de faire la démarche auprès de la personne qui nous a offensés ?
Alors, Cathy, nous avons Dorcelli qui nous apporte également un élément de réponse. Il mentionne Matthieu 18, verset 24, qui parle de la parabole de l'esclave impitoyable. Alors, certains s'en souviennent peut-être. C'est un homme qui devait de l'argent et qui demande à son maître de pouvoir avoir justement... Il demande le pardon parce qu'il peut pas donner la somme tout de suite. Il ne voit-il pas qu'il va voir un ami à lui qui lui doit un peu moins que ce qu'il devait et il l'envoie en prison pour une somme moins importante que ce qu'il lui devait. Et Dorcelli qui nous dit, il nous invite à pardonner autant que possible. Il dit que cela veut dire que nous devons et pouvons pardonner, cependant le pardon, ce n'est pas l'oubli. Dorcelli qui rajoute également, pardonner c'est apprendre à se dépasser, à oublier et à sortir de son ego. Mais Cathy, Dorcelli précise qu'il n'est pas d'accord avec toi en disant tout simplement, il n'y a pas quatre chemins, c'est reconnaître son péché et demander pardon.
Alors pour compléter aussi les retours que nous avons des auditeurs, nous avons Mimi, alors je ne sais pas de quelle ville, qui nous dit, sa question peut sembler hors sujet, mais doit-on pardonner et peut-on pardonner lorsqu'on ne nous demande pas pardon ?
C'est justement la question que je voulais, et je voulais aller plus loin même, c'est peut-on pardonner ? lorsque la personne ne reconnaît pas ses torts. Je prends pour exemple, je regardais cette semaine un film sur la vie d'un tortionnaire dans les camps de concentration juifs. Et en fait, lors du procès, malgré les preuves, les photos, etc., la personne n'a pas eu une once de regret. Et c'est ce que, en fait, le peuple juif, en tout cas, la famille juive attendait. C'était au moins un minimum de regret par rapport à ce qui s'était passé dans ces camps. Est-ce qu'on peut pardonner ? Est-ce qu'on doit pardonner quand on est prêt, nous, à avoir cette démarche de pardon et qu'en face de nous, la personne qui nous a fait du tort, elle ne reconnaît pas ses torts ?
Alors, pour apporter un élément de réponse, Cathy, j'aimerais parler avec toi de Jésus, lorsqu'il était sur la croix, tandis qu'on le crucifiait, il a eu une émouvante prière, un bel exemple de pardon. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà, c'est un verset que nous retrouvons dans Luc 23, verset 34. Est-ce que ce n'est pas là une réponse, Cathy, de pardonner parce que en demandant à Dieu de comprendre leur ignorance, de pouvoir vraiment...
Mais pour moi, c'est pas le même cas, parce que tu vois, dans l'exemple de Jésus, je veux dire, les Romains, eux, si tu veux, ils crucifiaient, ils faisaient un petit peu leur travail.
Est-ce qu'il y en a ?
Si tu veux, c'était pas commun. Mais quand Jésus fait, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est parce qu'ils n'ont pas, si tu veux, la vision de, ils n'ont pas l'historique en fait de Jésus.
Est-ce que pour c'est eux, pas la même chose avec un tortionnaire qui n'a pas non plus toute la dimension
Ben, il a bien vu qu'il faisait du mal à cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je me réexplique. Le Romain, lui, arrive. Il a ses ordres de son supérieur, lui disant, bon, il faut crucifier telle ou telle personne parce que, bon, déjà, c'est un ordre. Donc, il va s'exécuter, à moins de se révoquer et là, bon, passer par un tribunal, enfin, etc. Et puis, surtout ça, les Romains ne connaissent pas Jésus. Ils le découvrent pour certains avec l'histoire de Ponce Pilate, mais si tu veux, ils ne le connaissent pas. Moi, dans l'exemple que j'ai là, c'est une personne qui a, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui s'est amusée en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Mengele. Pour ceux qui aiment l'histoire un petit peu, comme moi, c'est une personne, c'était un médecin dans les camps de concentration, notamment à Auschwitz, qui s'amusait à faire des expériences sur des enfants, sur des jumeaux, sans moyen d'atténuer la douleur. Il allait découper des membres et les recoudre. Tu vois ce que je veux dire ? Il savait ce qu'il faisait. Il avait l'historique.
Alors, si ça peut amener un élément de réponse, nous avons Alain, notre ami Alain de Colombes, qui nous donne son avis sur le sujet et qui nous dit de ne pas confondre la réconciliation et le pardon. Pourquoi ? Et ça pourra peut-être venir nous répondre à ce que tu disais par rapport au tortionnaire. En fait, il ne faut pas confondre pardon et conciliation. Le pardon est inconditionnel, mais la réconciliation est conditionnelle et réclame un changement de la part du coupable, c'est-à-dire la repentance. Est-ce que ça amène un élément de réponse ?
Non, parce que pour moi, j'insiste, c'est-à-dire que, quand on demande pardon à Jésus, c'est parce qu'on reconnaît ses torts. Et... Donc Jésus va nous pardonner parce qu'on reconnaît nos torts. Et... quand on demande juste pardon à Jésus comme ça, bon, c'est juste une parole sans effet, en fait. Mais ma question, c'est, vraiment, j'insiste, peut-on pardonner quand nous sommes prêts ? Je prends un exemple, par exemple, je suis une femme mariée, bon, David me trompe, voilà. On a... c'est fictif, hein ?
J'espère bien.
Donc David me trompe. Et vous savez, moi, je le vis mal, cette situation, c'est compliqué. Et au fond de moi, quelque chose me dit que je veux être libre. Donc, je veux arriver à pardonner à David. Donc, je vais prendre la démarche d'aller vers David pour lui dire, écoute, au vu de la situation, moi, je suis prête à te pardonner. Et là, David me dit, mais écoute, j'ai pas besoin de ton pardon. Ou bien, ce que je t'ai fait, c'est mérité. Ma question est dans ce cas-là, parce que on peut, c'est très facile de dire il faut pardonner, on doit pardonner, mais dans ce cas-là, par exemple, concret, qui arrive bien souvent j'allais dire à tout le monde, enfin, j'espère pas, mais voilà, dans ce cas-là, peut-on pardonner quand la personne en face de nous ne reconnaît pas ses torts?
Alors, il y a David, Mylène, et puis après je vais donner quelques éléments de réponse des auditeurs.
Alors Mylène, on t'écoute.
Merci. Alors, parce que quand vous ne vivez pas en direct, c'est que ça fait au moins 5 minutes que je lève la main et que j'arrive pas à avoir la parole. Alors, oui, ça y est, je l'ai. Pour répondre à la question, la personne en face ne reconnaît pas. Le pardon, c'est pas forcément une démarche qui se vit à deux. C'est quelque chose de personnel. Cette paix que l'on aura lorsque l'on va aller vers l'autre, même s'il n'accepte pas, parce qu'il ne reconnaît pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais après, nous, on a cette paix intérieure. Et la difficulté, c'est comment on fait, c'est déjà un effort. C'est un effort d'aller vers l'autre. Et donc, on s'attend, parce qu'on a fait l'effort, on a prié, on a peut-être jeûné, on a fait tout ça. On s'attend en face à ce que la personne ait la même démarche que nous. Sauf que nous, ce temps qu'on a mis pour arriver à ce point, la personne n'en est pas là. Et il faut pas oublier que tout le monde ne reconnaît pas ses torts. Ça peut arriver que la personne, elle refuse de reconnaître et qu'elle reste dans sa situation. Mais vouloir à tout prix qu'elle aille dans notre sens, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, parce que Dieu ne cherche pas à nous faire aller dans son sens. Il nous propose un choix, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et c'est ça qui est difficile pour nous dans cette notion du pardon, c'est que lorsqu'on fait cette démarche, on veut que l'autre la fasse. Or, ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir cette paix en lui, pour nous-mêmes. Dieu nous demande d'avoir son amour dans notre cœur, pour nous-mêmes. Et parce qu'on l'aura, on voit l'autre différemment. Et on ne cherche pas à le convaincre d'aller dans notre sens, mais on va plutôt demander à Dieu de mettre en nous son amour. Et parce qu'on aura l'amour de Dieu dans notre cœur, on ne voit pas la personne de la même manière. Et c'est ça qui est difficile, je pense, pour nous, c'est qu'on prie. On se dit, bon, bah, j'ai prié, la parole de Dieu me dit d'aller demander pardon, et puis on y va, et puis on se dit, ah bah tiens, la personne, elle va nous pardonner tout de suite. Mais non. Mais non.
Alors, pour corroborer ce que tu dis, la question est doit-on et peut-on? Alors, à la question doit-on, j'ai un élément biblique, et la réponse est, en tout cas, de ce que je lis, oui. Parce qu'en fait, le pardon, c'est un ordre de Dieu. Alors, je vous donne le texte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, Marc 12, ainsi que Luc 10. Donc, plus qu'une option, c'est un devoir. Voilà.
Tu as également en complément également soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà, qu'on peut lire également dans Éphésiens 4 verset 32. Je retourne rapidement vers les messages de vous auditeurs, vos messages qui arrivent qui sont assez pertinents. Nous avons Dorcelli, Olivier, nous avons également Claude. Alors Dorcelli pour reprendre qui nous dit: il faut pardonner même si la personne en face ne reconnaît pas ça ou ses fautes. Il dit également que garder la rancune nous fait du mal. Le coupable n'est pas conscient forcément de sa faute. Pourtant, nous en souffrons. Il dit également que nous devons pardonner pour essayer de trouver une solution au contentieux. Nous avons également Olivier qui nous dit dans Matthieu 6 au verset 12, notre Père Dieu, il nous dit, on peut lire, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il rajoute également Marc 11 au verset 25 qui dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Olivier de rajouter, si nous souhaitons que Dieu nous pardonne de toutes nos offenses, nous devons croire en ce pardon. Et si nous ne croyons pas en ce pardon, nous ne pouvons pas en bénéficier. La meilleure manière de croire en ce pardon, c'est de le mettre en œuvre dans sa vie. C'est un message d'Olivier de Sannois. Et je termine avec Claude qui dit, oui, les chrétiens doivent pardonner. Par contre, peuvent-ils tout pardonner? C'est conditionnel, nous dit-il. Il nous rajoute un verset qui se trouve dans Jérémie 13, verset 23, qui nous dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard peut-il changer ses taches ?» De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Le chrétien charnel ne peut pas pardonner, il n'est pas transformé par la régénération de l'esprit. En tous les cas, il nous dit que les chrétiens nés de nouveau n'a pas le problème avec le pardon, car c'est l'esprit qui agit en lui.
Une citation d'un psychologue qui dit « Pardonner, ce n'est pas excuser, ni même absoudre, ce n'est pas non plus nier la faute, c'est la décision de ne pas ou de ne plus vouloir se venger, ni de souffrir. » Et par rapport à ce que disait Mylène et les auditeurs, là on comprend en fait que le pardon n'est pas humain. Humainement parlant, l'humain n'a pas tendance à pardonner. Donc peut-être que la propension à pardonner serait un signe de notre état spirituel. Moi, je le prends comme ça. Si je pardonne facile... Enfin, moi, je sais que de nature, je ne suis pas rancunière, mais il y a des choses que je laisse passer aujourd'hui, que je n'aurais pas laissé passer il y a quelques années. Donc voilà, c'est peut-être aussi un signe de maturation spirituelle. Peut-être se poser la question, si je ne pardonne pas, dans ma vie... Moi, je sais que, par exemple, la prière du Notre Père, c'est une prière que je ne dis jamais, seulement pour la phrase « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est vraiment une phrase qui me gênait, parce que je savais que dans mon pardon, le pardon était soit conditionnel, soit approximatif, soit... Enfin, voilà. Et...
Alors,
oui, tu voulais rajouter quelque chose?
Aller dans ton sens et rebondir un peu. Alors je suis d'accord, mais si cela, alors il y a des, on pourrait dire, oui, mais ça fait partie de mon caractère, être rancunier, la rancune. Alors dans ces cas-là, parce que tu disais que c'est peut-être mon état spirituel, mais est-ce que ma rancune est liée à mon état spirituel aussi ou pas? Alors Mylène, sans vouloir répondre.
Moi, je vais répondre. Parce que je suis rancunière.
Moi, j'ai rien dit.
C'est un sujet qui me parle. Alors, est-ce que c'est lié à notre nature d'être rancunier? Plus ou moins, on l'est. Est-ce que c'est spirituel de l'être? Non. Parce que, au fond, lorsqu'on tient rancune à quelqu'un, on n'est pas heureux.
Oui.
Et ce que Dieu veut, c'est qu'on ait sa joie dans notre cœur.
On soit libre.
On soit libre. Lorsque je garde rancune à quelqu'un, je ne suis pas libérée. Or, Dieu me dit qu'il m'a libérée dans Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, lorsque je garde rancune, je ne suis pas affranchie. Donc, partant de ça et en étudiant la parole de Dieu, je demande chaque jour à Dieu de ne plus être rancunière, d'être libérée de ce poids. Et lorsqu'on demande ça à Dieu, ben, c'est facile de le dire. Mais lorsqu'on se retrouve dans la situation, c'est plus « je te pardonne ». C'est « Seigneur, mets en moi cet amour comme tu es venu mourir pour moi, eh ben, je veux aimer l'autre comme ça. » Et lorsqu'on fait ce genre de prière à Dieu, eh ben, c'est violent. Il faut se préparer à quelque chose et du coup, ne pas rester dans « oui, la personne m'a fait ça, je l'aurai au travers du chemin, même si ça prend 20 ans, 30 ans. »
Alors,
voilà, c'est ça, c'est cette libération que l'on a en Christ qui fait que notre regard sur l'autre change et on est heureux. Et si on n'est pas heureux en tant que chrétien, c'est qu'il y a un problème.
Et par rapport au caractère, je voulais juste ajouter que il y a peu aussi, moi je disais, bon, telle chose c'est dans mon caractère, jusqu'à ce que je comprenne que en fait, on ne peut pas garder le même caractère que l'on a avec Christ. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où notre caractère doit changer. On ne peut pas garder le même caractère qu'on a et être, enfin, je veux dire, avant une conversion et après une conversion, on ne peut pas, on est obligé de changer. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème.
Alors, nous avons une belle intervention de David de Collonges, qui nous dit, psaume 130, verset 4, « Mais c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. » Il nous dit encore, « Le véritable pardon est la prérogative de Dieu, et c'est en abdiquant notre être entier à Dieu que nous participons à son action de grâce, le salut, la grâce, le pardon, l'amour, etc. » sont des synonymes décrivant l'action de Dieu et donc décrivant Dieu lui-même. Je ne choisis pas de pardonner, je choisis d'appartenir à Dieu qui me libère et m'aide à libérer les autres qui ont une dette envers moi, faute, crime, dette d'argent ou sociale, etc. C'est l'action de Dieu dans ma vie qui me mène au pardon. Ce n'est pas une décision ou une chose humaine. Et il nous renvoie à Exode 34 ainsi qu'à 2 Corinthiens 7, verset 14.
Alors, pour parce que le temps passe vite, j'ai une question qui nous vient de Stéline de Sarcelles qui pose une très bonne question. Elle dit, si je ne pardonne pas, est-ce que ma vie éternelle est en danger?
Ah, intéressant. Alors, je rappelle à vous, amis auditeurs, que vous pouvez appeler pour intervenir. À trois, Cathy.
Oui, très clairement, oui. Moi, j'aime beaucoup cette. Il y a un verset que j'aime bien. Alors, je le connais pas par cœur, mais c'est l'histoire d'Enoch, où on dit Enoch marchait avec Dieu, et en fait, Dieu a enlevé Enoch auprès de lui parce qu'il était beaucoup plus près de Dieu en fait que des humains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, très clairement, on peut pas aller au ciel avec avec des casseroles, avec des ressentiments. Et c'est pareil, c'est difficile d'aller à l'église quand on a des soucis avec des personnes de la même église, etc. C'est quelque chose qui est compliqué, mais c'est quelque chose à régler. Très clairement, il y a des choses comme ça pour lesquelles... moi, je vais vous raconter une histoire vraie en plus. C'était il y a au moins 5 ans, 5 ou 6 ans. Je me suis réveillée, enfin, j'ai entendu un fort bruit de trompette. Quand je vous dis un bruit, c'était assourdissant. Et en fait, j'ai eu peur. Je me suis dit, mince, Jésus revient vraiment maintenant? Et en fait, sur le coup, j'ai vraiment paniqué. Parce que le bruit de trompette était tellement fort que je me suis dit, ça y est, ben en fait...
C'est cuit.
Non pas que je suis une meurtrière, etc. Mais c'est qu'à cet instant-là, je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et que si Jésus revenait, j'avais l'intime conviction qu'en fait, c'est même pas tant qu'on pourrait pas aller au ciel, c'est qu'en fait, le ciel serait insupportable pour nous. C'est ça, en fait. Souvent, on a l'impression que... vous savez, c'est comme quand on a... j'ai une amie qui me disait, moi, j'aime pas les couples heureux parce qu'en fait, ils sont insupportables pour moi parce que moi, j'ai vécu un divorce difficile. Et c'est ça, en fait, le ciel. C'est-à-dire que tout sera tellement beau, tout sera tellement bien que en fait, ça va nous ronger et que ce sera insupportable pour nous.
Alors, pour apporter un élément de réponse encore à... C'était Stella ? Non.
C'était à Stella.
Oui.
Je me suis trompé parce que effectivement c'est Stéline.
Stéline, voilà. Alors, pour reprendre le verset avec lequel nous avons commencé ce débat que je relis et qui se trouve dans Matthieu 6 verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Alors, essayons pas d'extrapoler mais simplement de mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je ne suis pas capable de pardonner aux autres, Dieu n'est pas en mesure de pouvoir me pardonner. Donc, comment puis-je entrer au ciel si je ne suis pas pardonné? Ensuite, j'ai envie de dire, et ça c'est un avis par contre plus personnel, en fait, c'est pas tant le fait de ne pas pardonner qui fera que je ne rentrerai pas au ciel ou que je n'irai pas au ciel, mais c'est qu'en fait, le fait que je ne pardonne pas est en train de ronger et de de créer des problématiques dans ma vie, en fait, je vais, sans le vouloir, m'éloigner au fur et à mesure, en fait, de l'objectif final à cause de cette rancune. Alors, parfois, la rancune se transforme, se somatise, comme on dit, puis ça se transforme en maladie. Enfin, voilà, ça va finalement, de façon indirecte, m'empêcher d'atteindre mon objectif. Voilà.
Alors, je pense, David, dans ce sens, nous avons un très beau message de Lynn de Paris qui nous dit que le pardon est un don illimité de Dieu à ne pas dissocier de l'amour. Elle voit, elle dit, si j'aime mon prochain, il faut voir l'offense comme une opportunité de lui faire vivre une expérience d'amour. Deux points, le pardon. Ce n'est pas humain, c'est spirituel, dit-elle, c'est se dépasser, renoncer à notre nature. Merci beaucoup, Lynn, pour ce message, et profiter également pour remercier Mimi pour son message de la part d'un auditeur, de la part de Dorcelli. Voilà.
Et moi, j'irai plus loin là-dedans. Peut-on pardonner sans amour? C'est-à-dire que c'est une question que je pose, je vois des têtes qui hochent, etc. Mais c'est-à-dire, je reprends l'exemple de cette femme qui vit une situation compliquée avec son mari, qui lui pardonne, ok, peut-elle ensuite, je veux dire, prier pour lui aisément, peut-elle se dire qu'elle, alors on va pas rentrer dans l'amour marital, mais dans l'amour, cet amour du prochain, est-ce que le pardon est dissociable de l'amour?
Alors, d'emblée, en fait, c'est pour ça que j'ai secoué la tête, d'emblée, ça me paraît invraisemblable, en fait, le pardon sans amour, puisque le pardon découle de l'amour, à mon sens. Et je pense aussi que beaucoup de versets pourraient corroborer cela. Et en fait, j'aime lorsqu'on a parlé tout à l'heure de processus. Je crois vraiment que le pardon est un processus. On ne peut pas le voir autrement, parce que sinon ça voudrait dire que du jour au lendemain, je vais pouvoir, comme quand j'ai perdu un être cher, je vais pouvoir, voilà, ne plus y penser, et puis bon, c'est la belle vie. Non. Pour le deuil, il y a un cheminement, il y a ce qu'on appelle le travail de deuil. Pour le pardon, il y a un autre type de cheminement, et nous avons reçu un petit... alors, c'est pas un verset, mais ce sont des principes fondamentaux du pardon que je vous énonce comme ça, qu'on a reçu de Sarah Destin. Alors, le pardon implique, donc... On peut le voir comme un cheminement, hein. L'amour de soi et d'autrui, le lâcher prise, ne garder aucune rancune, donner une chance à l'autre, à ouvrir son cœur au changement, accepter l'autre comme il est, comprendre que fondamentalement, nous ne sommes pas parfaits, ni lui, ni moi. Donc voilà, on voit bien que c'est un processus et que ce n'est pas du jour au lendemain. Et pour finir, et je finis aussi avec une citation de Sarah, pardonner ne signifie pas toujours que tu as tort ou que l'autre a raison, cela signifie simplement que tu considères ta relation entre toi et cette personne plus importante que ton ego. Je trouve cette citation très parlante parce que finalement, pour revenir à ton exemple, cette femme qui pardonne son mari considère que la relation, c'est-à-dire que on dit bien que personne ne sépare ce que Dieu a uni, donc elle a été unie par Dieu, elle considère cette relation plus importante encore que son propre ego, que son amour propre, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail d'amour.
Mais, je dis bien mais, parce que là, à dire, c'est facile, mais en fait, ce n'est possible que si on a une relation intime avec Dieu.
Ah ben, Dieu est amour. Voilà. C'est la source de l'amour.
Je voudrais rebondir sur ce point. Je trouve qu'en fait, souvent, en tant que chrétien, on a de très belles phrases sur... le pardon, etc. Pourtant, dans nos églises, c'est un nid de non-pardon.
Le mot est dit.
Voilà, le mot est dit. Parce qu'on garde, en fait, de la rancune pour des choses qui se sont passées, des fois, il y a 25 ans, 30 ans, 10 ans, ou peut-être même il y a deux jours. Et au final, ça se ressent à l'extérieur, parce que on dit qu'on a l'amour de Jésus. Mais au fond, on l'a pas, puisque on n'arrête pas de répéter, de ressasser des choses. Alors du coup, notre évangile même est faussé. Et si aujourd'hui on aborde ce sujet, c'est que je pense que Dieu nous invite aussi, à travers cette réflexion, à revoir qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut dire à l'autre? On dit que Dieu est amour, mais entre nous, pour des cas d'église, on le fait pas. Est-ce que c'est pas une occasion que Dieu nous donne de réfléchir aussi à la façon dont on vit avec l'autre? Et peut-être que même s'il reconnaît pas que lorsqu'on nous a pas nommé à ce poste, ça nous a profondément blessé, mais que en n'étant pas à ce poste-là, Dieu, c'est une occasion de d'appliquer toutes ces citations qu'on vient de voir, quoi.
Alors, en fait, c'est difficile de. Ah pardon.
Oui. Non, en fait, j'allais enchaîner avec une question pour tout le monde. Est-ce que c'est parce que le rôle de l'Église ne se limite pas bien souvent à simplement condamner un membre qui serait coupable?
Non, justement. Moi, je pense que le problème, c'est que comme on rencontre des difficultés avec des personnes qui partagent la même foi que nous, on ne comprend pas en fait ce décalage. Moi, je sais que j'aurais peut-être beaucoup plus de facilité à pardonner un collègue de travail qu'un membre d'église. Parce que je me dirais, quand même, la personne prie comme moi, la personne adore comme moi, alors que la personne m'a fait tant de mal, elle prêche, elle prie, des fois même, elle bénit l'assemblée. Moi, un jour, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une bénédiction dans l'église, et j'ai dit à Dieu, je ne veux pas de la bénédiction, parce que cette personne-là, pour moi, personnaliser tout ce que je n'aimais pas chez quelqu'un. Et en fait, là, on se dit que ça va loin.
Ce sont des considérations humaines, si on peut dire
bien
ça
sûr,
ainsi.
Bien sûr, mais tout comme moi, j'ai cette réflexion, la personne aussi
a
la même réflexion. Et en fait, on est dans le même cheminement. Le souci, c'est que comme dans une église, on est tous censés avoir une relation avec Dieu, on se dit, d'une vue humaine, on n'a pas envie de pardonner.
Alors, deux éléments pour répondre, mais en tout cas qui me viennent à l'esprit, c'est première chose, je crois clairement que on a parlé tout à l'heure de naître de nouveau, de comment on a dit ça, de je sais pas comment quel terme tu as employé, mais en gros de transformation en profondeur. C'est clair et net que si nous vivons dans une église charnelle avec des hommes et des femmes charnels et non spirituels, il est sûr et certain déjà d'aller directement dans le mur, mais en plus que toutes ces problématiques de pardon ne pourront pas prendre place. Alors, comme disait Mylène, c'est vrai que ça, on le sait pertinemment. On lit tout le temps que Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, etc. Mais, cependant, au quotidien, lorsque la personne est montée sur notre pied et qu'on a encore la douleur, en fait, la douleur, c'est ce qu'il y a de plus charnel au monde, en fait. Parce qu'en fait, la douleur, c'est le summum de l'égoïsme, le summum de l'amour propre. Parce que la douleur te dit, écoute, détourne l'attention de tout ce qui est autour de toi et concentre-toi sur tes nerfs qui te disent que tu as mal. Et en fait, cet état-là, c'est un état complètement à l'opposé de l'état spirituel qui est, comme les enfants d'Israël dans le désert, au moment où les serpents te piquent, arrête de te concentrer sur ta douleur et concentre-toi sur la croix et concentre-toi sur le spirituel, en fait. Donc, d'où le fait que, effectivement, dans l'église, c'est d'autant plus compliqué. Mm-hmm. Mais si on a vraiment, et je le redis, c'est pas pour dire de belles paroles, mais lorsqu'on est dans une dimension spirituelle, le pardon est quelque chose déjà de beaucoup plus concret et qu'on peut expérimenter et non pas dire. Parce que tout à l'heure, tu disais, oui, on dit, mais en fait, l'amour ne se dit pas. Elle s'exprime, elle se démontre, en fait. Voilà.
Alors, comme rappelons, ce débat est toujours à la lumière de la Bible. Nous avons dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, Paul nous parle du pardon envers l'auteur d'une grave offense. Il dit, si quelqu'un a fait de la peine pour un tel homme, un blâme suffit. Il dit, c'est pourquoi bien au contraire, faites-lui plutôt grâce et consolez-le de peur qu'il ne sombre dans une tristesse excessive. Il rajoute au verset 8, donc je rappelle dans 2 Corinthiens 2 au verset 6, aussi je vous engage à faire preuve d'amour envers lui, et il dit, car en vous écrivant, parce qu'il écrivait à l'église, mon but était de voir à l'épreuve si votre obéissance était totale. Donc là, on voit plusieurs éléments. On voit l'amour comme on en a parlé ce soir, on voit également l'obéissance à Dieu et on voit surtout également la consolation et le fait de pouvoir aider notre prochain à pouvoir se relever.
Alors, on a Cathy et après Mylène.
Non, mais vas-y, Mylène.
Alors, moi, je voudrais lire un... Alors, il y a Marie-Louise qui a posté le Matthieu 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix. » Et elle dit « La paix est le résultat de la réconciliation, processus de repentance et du pardon. » Et dans Hébreu, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. » Et là, l'auteur d'Hébreux s'adresse à des membres d'Église. Donc ça veut dire que ce problème, c'est pas un problème de gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est vraiment un problème, au contraire, de personnes qui connaissent Dieu. Et du coup, ça nous invite chacun individuellement à se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder de la rancune et de ne pas être en paix ou de faire semblant d'être en paix en faisant taire sa conscience? Ou est-ce que ça vaut le coup de pardonner à la personne et en lui pardonnant, l'amener peut-être à revoir son attitude? Moi, je parle en donnant un exemple qui me touche. Comme j'ai dit au début, je suis plutôt très rancunière.
Tu étais.
Non, c'est un long processus. C'est un long processus. Donc, je suis moins rancunière qu'il y a quelques années.
Qui est?
En pardonnant à quelqu'un qui m'a fait du mal, même si cette personne ne m'a pas pardonné, sur le coup, j'étais très vexée qu'elle ne m'ait pas pardonné. Mais du coup, je me suis dit, non, mais franchement, c'est abusé, j'ai fait un effort et tout. Et au fond, je restais, même si j'avais fait la démarche, je restais toujours à ressasser, en fait. Et le jour où j'ai demandé à Dieu de mettre dans mon cœur son amour pour cette personne, même si elle ne m'avait toujours pas pardonné, mon regard sur elle a changé. Elle n'a pas changé d'attitude, mais moi, j'ai changé. Et du coup, ce changement, des années après, lorsqu'on s'est revus, eh bien, on a pu parler sans animosité. Et elle m'a dit, je ne serais jamais venue te parler parce que je voyais dans ton regard que tu m'en voulais, même si tu m'avais dit que tu m'avais pardonné.
Donc, tu ne l'avais pas vraiment pardonné.
Et pourtant, de ma bouche, je lui avais dit, non, mais je te demande pardon, clairement. Et en fait, ce changement qui s'est opéré en moi a eu un impact positif sur l'autre. Donc si chacun, nous, on fait cette démarche personnelle, même si l'autre refuse de l'accepter, je pense que spirituellement, on grandit.
On est défilé.
Voilà. Et c'est
grandit,
comme ça
qu'on est libéré.
Et voilà, on est libéré. Et c'est comme ça qu'on libère aussi l'Église. Parce que si notre Église n'est pas libérée, c'est parce que
il y a un nœud
quelque part. Et ce nœud, il faut le dénouer. Quoi. Ouais.
Alors, je prendrai la... Je pense la...
Alors, il y avait Cathy juste avant.
Autant pour moi, priorité à droite.
Non, non.
En fait, j'allais prendre la dernière participation.
Vas-y.
Alors, il s'agit de Victoria. Merci, je profite pour remercier vous tous, auditeurs, d'avoir participé par message à contribuer à apporter des éléments de réponse. Et voilà, je vais terminer avec Victoria qui nous dit... qui essaie de répondre à cette question, en tous les cas. Pourquoi avons-nous du mal à pardonner? Elle dit, c'est la vraie question, et le plus souvent, le problème vient de nous. Si nous devons être des hommes et des femmes à l'image de Dieu, au caractère de Dieu, le pardon est automatique. L'important, c'est l'autre. Victoria rajoute également, l'important, c'est le bonheur de l'autre, et surtout, de ne pas être un obstacle à son salut, même si nous avons été blessés.
Voilà, et ça nous ramène à la citation que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire faire passer l'autre au-dessus de son amour propre.
Alors pour terminer, je vais vous laisser avec une histoire vraie. C'est l'histoire de Mary Johnson. Mary Johnson est mère d'un... Mary Johnson vit aux États-Unis, hein. Elle vit toujours. Elle avait un fils. Et le 12 février 93, son fils est tué par un membre d'un gang rival, ce qui arrive souvent malheureusement aux États-Unis. Et ce jeune homme a 16 ans, ce meurtrier a 16 ans. Quelques peu de temps après le meurtre, il est retrouvé par la police et il admet son crime. Et il écope de 25 ans de prison. Lors du procès, Marie Johnson, qui est une chrétienne, lui dira « Je vous pardonne ». Mais elle dit qu'au fond d'elle, elle se disait « Bien que je lui ai pardonné », et je cite « Je souhaite qu'il aille en cage tel un animal sauvage, car c'est ce qu'il mérite ».
Ah oui, quand même.
Oui, quand même. 9 ans après ce meurtre, le pasteur de Mary Johnson intervient sur le sujet du pardon. Et en fait, elle dit qu'elle retient une seule phrase de cette prédication, c'est « Priez pour ceux qui vous ont offensé comme vous priez pour vous-même ». Et là, elle dit qu'elle n'était pas en paix en fait. Parce que comme Hélène le disait, elle avait dit à ce meurtrier qu'elle lui avait pardonné. Et pourtant, 9 ans après, elle a compris que son pardon n'était pas effectif. Et Mary Johnson décide d'avoir un processus de pardon. Et donc, elle décide, après plusieurs mois de prière, d'aller rendre visite au meurtrier de son fils en prison. 1 an plus tard, donc, elle rend visite à ce meurtrier. La première fois, les contacts sont distants, ils sont froids. Elle le regarde, elle voit chez lui une personne qui... Enfin voilà, elle est détruite à 16 ans, elle est en prison, prendre 25 ans, c'est énorme. Et petit à petit, en fait, elle se rend compte qu'elle commence à avoir de l'humanité envers cette personne-là. Petit à petit, elle lui rend de plus en plus visite, alors que lui-même n'a pas trop de visites de sa famille. Ils étudient la Bible. Et finalement, ils deviennent presque bons amis. Chose étonnante. Et en 2010, ce meurtrier sort de prison. Et en fait, c'est Mary Johnson qui organise un collectif pour la réhabilitation de ce jeune homme-là. Et dans son pardon, elle ira lui trouver un studio. En fait, actuellement, ils sont voisins de palier. Elle ira lui chercher du travail, militer auprès de chefs d'entreprise du quartier pour lui trouver un travail. Elle ira l'introduire dans son église. Elle l'invite régulièrement chez elle, lui faisant ses petits plats préférés. Chose étonnante, le pardon les a tous les deux libérés. Et aujourd'hui, cet ex-meurtrier, j'ai envie de dire, considère Mary Johnson comme sa propre mère. Et pour moi, cette histoire-là, elle caractérise bien le pardon. C'est-à-dire que le pardon est un processus qui peut prendre bien des années, quoique il ne faut pas se dire que c'est un processus long, qu'il faut traîner le plus rapidement possible. Plus vite on résout ce problème, plus vite on est libre. Et en fait, le pardon, c'est ça. C'est ce que disait l'auditrice tout à l'heure, c'est que le pardon n'est pas indissociable de l'amour. Les deux vont ensemble et que le pardon est divin. C'est un don de Dieu, c'est pas humain. De nature, l'humain est plutôt rancunier.
Et ton histoire est assez édifiante parce que lorsqu'on ne peut pas imaginer, et quand bien même elle l'aurait fait le lendemain ou quelques semaines après, je pense que ça aurait été même le regard extérieur et dire non, enfin du jour au lendemain tu peux pas, il a tué ton fils et puis il devient ton voisin de palier et tu lui fais des petits gâteaux à la maison, ça n'aurait pas été, comment expliquer ça, voilà, personne n'y aurait cru en fait, tandis qu'avec ce cheminement ça devient une histoire forte et édifiante et finalement ça résume comme tu disais le pardon comme vraiment un cheminement avec Dieu qui nous donne cette opportunité, cette libération et cette paix intérieure grâce au pardon.
Et pour aller plus loin, comme Mylène l'a dit, bon là on est dans le milieu adventiste chrétien, il y a souvent des conflits dans nos communautés. Il y a deux choses qui sont devant nos yeux, c'est si on a un conflit avec une personne, c'est qu'il faut le régler. Parce que malheureusement, moi, à mon regard, je me rends compte que quand il y a un conflit, c'est comme une boule de neige. En fait, d'autres personnes sont impliquées. Et
plus le temps passe, plus ça s'amplifie.
Voilà, plus le temps passe et plus c'est compliqué. Et moi, je me rappelle très bien d'une jeune fille qui s'appelait Manuela, qui s'était convertie, qui était dans notre église, et que j'ai retrouvée à la fin d'une vie d'église en pleurant, qui m'a dit, là, je viens de voir un décalage flagrant entre la foi que l'on professe et la foi que l'on pratique. Et ce jour-là, c'est vrai que ça m'a touchée de voir en fait que on peut être une pierre d'achoppement en fait. On peut être, comment dire ça, un obstacle au salut des autres par rapport à un conflit qu'on a. Donc aujourd'hui, l'appel est lancé. C'est que si on a un conflit avec une personne, c'est de se dire qu'il y a peut-être des âmes qui sont en jeu, qu'il ne faut pas être égoïste là, qu'il faut régler ce problème-là. Parce que de toutes les manières, au ciel, on ne va pas se cacher. Il n'y aura pas de clan, il n'y aura pas de groupe. Et à un moment donné, on peut pas y accéder n'étant pas transformé. La deuxième chose à faire, c'est de ne pas se dire « moi, je n'ai de conflit avec personne », mais de regarder ce qui est en train de se faire sans militer, ou soit avoir une position. Dans la Bible, il dit qu'on est appelé à être des réparateurs de brèches. C'est ça, en fait, qu'on est appelé à être. C'est s'aimer les uns les autres. Et quand bien même on aimerait tout le monde, c'est d'être là en tant que médiateur entre une ou deux, plusieurs personnes qui sont en conflit. Donc aujourd'hui, mon appel est lancé. C'est très concrètement, déjà dans nos familles. C'est souvent, c'est vrai que c'est facile de dire à l'extérieur, etc. Mais le plus souvent, les problèmes sont même au plus près de nous. C'est-à-dire dans... David me regarde.
Tu veux...
David, je te demande pardon.
Ah, mais quand même.
Voilà. C'est tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un petit accrochage. Bon, pas grand-chose, mais bon.
En présence des témoins.
En présence de témoins. Deux ou trois, comme dit la Bible. William, Mylène, les auditeurs. Enfin, voilà, c'est de se dire qu'il faut qu'on avance et que... Bien souvent, moi, c'est vrai que étant plus jeune, je terminerai avec ça, j'avais cette vision de me dire que pour moi, l'église parfaite, ce serait l'église où il n'y a aucun conflit. Et je l'ai recherchée, cette église. Plus je la recherchais, plus je trouvais des conflits. Et en fait, je le redis encore, c'est avec l'expérience de Naëla, notre enfant, que j'ai compris que l'église est un hôpital. Et que dans l'hôpital, on guérit. Mais à l'hôpital aussi, il y a des infections. Il y a des virus et qu'en fait, c'est quelque chose qui est là. De toute manière, c'est pas comme si Satan ne pouvait pas rentrer dans l'église. Hein. C'est le milieu où, enfin, c'est son terrain de jeu préféré. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, notre objectif, c'est de dire non. Il faut que ça cesse. Il faut que l'église arrive à, j'ai envie de dire, retrouver ou trouver même son essence qui est l'amour, le pardon, l'unité. Parce qu'actuellement, les gens meurent, quoi. Les gens meurent spirituellement.
Et cela requiert beaucoup de prières. Mm. Vas-y, Mylène.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je dirais que aujourd'hui, la question de où est l'amour, on peut se la poser. Mais l'amour, c'est Jésus et il frappe à la porte de notre cœur. Donc, est-ce qu'on va ouvrir la porte de notre cœur ou est-ce qu'on va rester comme on est? Ben, moi, j'ai envie d'ouvrir... Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur parce que je veux accepter ton amour. Je ne veux pas passer à côté de tout ce que tu as fait dans ma vie. Je veux vraiment que tu habites pleinement en moi et que tu mettes en moi cet amour, même si je vois des choses qui m'irrissent le poil, qui me retournent parfois. Mais avec des yeux, avec les yeux de la foi et les yeux du Seigneur, ne pas justement tomber dans cette amertume, mais vivre vraiment l'amour de Jésus.
Ok. Mais merci beaucoup, Cathy et Mylène, pour ce mot de la fin. Personnellement, en tout cas, un débat très enrichissant. Je profite de l'occasion, Cathy, pour accepter ton pardon, mise en pratique. Non, mais plus sérieusement, pouvoir discuter de cela est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Alors, prions et demandons à Dieu de transformer nos cœurs, déjà, parce qu'à travers cela, il transformera nos familles, il transformera l'Église, il transformera à terme le monde. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous fortifie, vous fasse du bien. Nous vous laissons avec un morceau et nous reviendrons avec un moment de prière. J'espère que vous avez apprécié ce débat. Il continuera en replay dès la fin de l'émission.